Bonjour à tous. J'ai eu à cœur ce matin de partager avec vous une méditation, une de ces méditations qui, normalement, devrait nous donner de la joie, nous procurer de la joie et nous permettre de louer notre Seigneur pour l'œuvre qui se produit dans la patience. C'est notre thème d'aujourd'hui, la patience. Alors, un premier point de contexte important, peut-être pour justifier un petit peu l'intérêt de ce thème, c'est que la patience est un des éléments à exercer pour améliorer la qualité de notre foi. En Galates 5, au verset 22, l'apôtre Paul éveille notre connaissance en disant que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En effet, les fruits de l'esprit sont des attitudes, des comportements. Et la patience est un comportement qui est développé à travers l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire qu'en demeurant en Christ, nous développons la patience. Lorsque nous gardons et méditons la parole de Dieu, nous développons la patience. Et lorsque nous appliquons l'enseignement de Dieu, nous développons aussi la patience. Or, l'Esprit est Dieu, et les dons de l'Esprit proviennent de Dieu. Il est donc clair également que Dieu aussi est patience. Voilà donc notre thème un peu justifié. Alors tout au long de notre méditation du jour, je vais partager avec vous parfois des exemples de prières que nous pouvons faire pour justement entrer dans ce thème de la patience. Et aussi je me permettrai de faire quelques petites alertes par le mot « attention » qui nous permettront donc de faire un ménage dans certaines interprétations trompeuses. D'abord, une première prière que nous pouvons faire ensemble. Nous pouvons prier et demander à Dieu d'avoir ses dons en partage. Et c'est ce qui nous amène à dire que la patience, nous voulons l'avoir en partage. C'est une qualité de Dieu. Et c'est le but d'ailleurs de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est de nous permettre de goûter à tout ce que Dieu a en réserve pour nous, afin d'être trouvés semblables à Dieu. Mais alors, de quel type de patience s'agit-il ? Est-ce que c'est une patience mise à l'épreuve à la caisse du supermarché ? Est-ce que c'est la patience dont nous devons faire preuve lorsque nous sommes en voiture vis-à-vis d'un piéton qui traverserait en dehors des clous, et ce, avec le temps qu'il veut ? Qu'attendons-nous en étant patients ? Nous devons être patients vis-à-vis de quoi ? Et que faisons-nous pendant ce temps de patience ? Je vous invite à découvrir donc la patience à travers deux textes. D'abord l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 2 à 4, et enfin la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 14 et 15. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Donc, dans Jacques, chapitre 1, les versets 2 et 3. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Jacques est connu et reconnu à travers le Nouveau Testament comme un serviteur de Jésus, un de ceux qui a été contemporain de Jésus. Alors, il y a un petit débat pour savoir s'il s'agit du frère de Jésus ou de Jacques le disciple. Mais en tout cas, dans la Bible, on parle d'un Jacques qui a été visité par Jésus à la suite de sa résurrection, dans 1 Corinthiens 15, verset 7. Paul, l'apôtre, cite même Jacques comme étant le responsable de l'église de Jérusalem au moment de sa conversion. Et donc, dans son épître, Jacques va tailler comme on taille un diamant, la foi. Il va ôter de la foi les éventuelles impuretés. Il va révéler sur la foi sa véritable valeur. Et c'est ainsi que Jacques va nous montrer une des facettes de la foi, la patience, dans la vie du chrétien. comme un élément qui est utile à la vie et surtout à l'épreuve dans la vie. Nous verrons aussi à travers ce texte que la patience du chrétien doit aller plus loin que la patience simple, celle qui attend, qui regarde, immobile. Nous verrons que la patience doit être trouvée comme qualité de la foi. Et nous lisons ensuite la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 14 et 15. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Alors cette fois, c'est Pierre, l'apôtre, qui parle de la patience dans un contexte qui est très complémentaire à celui de Jacques. Tous deux, d'ailleurs, Jacques comme Pierre, s'adressent dans leurs lettres et leurs épîtres à des églises, à des groupes de chrétiens qu'ils ont suivis, formés et qui sont dispersés. Ces groupes de chrétiens semblent dévier parfois de leur comportement, se détourner même du véritable enseignement laissé par Jésus. Et donc, dans cette deuxième épître, Pierre vient mettre de l'ordre face à une attaque trompeuse qui pourrait perdre les chrétiens, en faisant croire que leur patience est vaine et que le retour de Jésus n'est qu'utopie. En effet, des moqueurs viennent troubler les chrétiens et les mettre en doute. C'est alors que Pierre va apporter des réponses et nous parler du rapport de Dieu vis-à-vis de la patience. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est un examen de ces textes. Car comme vous, j'ai l'amour de la parole de Dieu. Et donc, comme vous, j'aime la lire, la méditer, et je veux la partager avec vous. Nous laisserons donc l'Esprit de Dieu travailler en chacun d'entre nous pour trouver les applications concrètes qui seraient utiles à prendre après l'examen de cette parole. Et donc, nous allons voir deux parties. La première partie, c'est la patience du chrétien, et la deuxième partie, c'est la patience de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te recommandons en ce matin notre intelligence, notre sagesse, notre esprit, nos oreilles, Seigneur, afin que tu les gouvernes, que tu laisses entrer ta parole, tu la laisses tomber dans notre cœur, dans notre corps, Seigneur, afin qu'elle puisse germer et qu'elle mène à nous produire de bons fruits, ceux qui agréent ton cœur. Seigneur, que ton esprit dirige toutes choses, que ta parole soit entendue. Amen. Pour comprendre les contours de la patience que doit développer le chrétien, il faut d'abord comprendre le lien entre la patience et la foi. Jacques nous propose un lien qui est l'épreuve, donc le contexte de l'épreuve. Lorsque l'on passe par une épreuve, nous développons un comportement. Et celui de la patience, qui est le fruit de l'esprit, va influer beaucoup sur la manière dont nous allons vivre l'épreuve, voire même la manière dont nous allons en sortir de cette épreuve. Alors, qu'est-ce que l'épreuve dans le texte de Jacques ? D'abord, une définition un peu générale. L'épreuve est une expérience qui peut avoir deux issues. D'abord, montrer peut-être les failles d'un objet qui est mis à l'épreuve, ou encore mettre en valeur la solidité de l'objet qui est mis à l'épreuve. Et donc, quel est l'objet qui est mis à l'épreuve dans l'épître de Jacques ? Eh bien, c'est notre foi. Notre foi est parfois mise à l'épreuve. Et quand nous parlons de foi, nous parlons de notre statut d'enfant de Dieu. Ainsi, nous comprenons que notre foi est précieuse. Car pour être appelé enfant de Dieu, il faut que la foi dans la vie, comme dans la mort, soit trouvée intacte. Donc, ce qui est mis à l'épreuve, ce n'est pas notre honneur. Ce n'est pas notre réputation. Ce n'est pas notre santé, ce n'est pas non plus notre dignité, encore moins notre position sociale, mais véritablement notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et pourtant, parfois, il nous arrive de nous battre dans l'épreuve, mais de nous battre non pas pour préserver notre foi, mais notre réputation, Il nous arrive de nous battre non pas pour préserver notre foi, mais nos relations. Il nous arrive de nous battre non pas pour préserver notre foi, mais notre image ou notre confort. Pourtant, c'est en préservant notre foi que nous nous assurons une place dans le royaume de Dieu. En ayant été trouvés accomplis et parfaits à tous égards, c'est ce que Jacques nous dit dans le verset 4. Prenons l'exemple de Paul, mais qui était Saül. S'il avait été ainsi pour lui, s'il n'avait pas cherché la vérité de la foi en Dieu, s'il avait cherché à préserver son statut et sa réputation, jamais il n'aurait dit oui à Jésus-Christ et jamais il n'aurait renoncé au meurtre qu'il perpétrait. Mais Saül est devenu Paul, l'apôtre, et il a gagné la foi en perdant sa liberté à plusieurs endroits. Il a gagné la foi en perdant son honneur aux yeux des Juifs et des chefs religieux. Il a gagné la foi, il a préservé sa foi, même en étant jeté en prison. Il a gardé sa foi, même en étant critiqué. Mais pour son attachement à Jésus-Christ, en révélant la foi véritable en Dieu, il a été vainqueur. Il a véritablement été vainqueur de sa vie. Il a été vainqueur de sa vie par Jésus-Christ. Alors attention, pensée trompeuse. Nous pensons parfois que l'épreuve vient à cause de la qualité de notre foi. Ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est question de dire que l'épreuve, que les événements de la vie arrivent. Nous sommes dans ce monde, nous sommes sur cette terre. Nous pouvons être malades, nous pouvons subir des critiques, nous pouvons être calomniés, nous pouvons vivre des expériences malheureuses. Il n'est pas question de dire que si quelqu'un vit ça, c'est que sa qualité de foi est mauvaise. Mais la question est de savoir comment nous gérons cette expérience. Et c'est la manière dont nous allons vivre cette expérience qui va définir notre foi. C'est la manière dont nous allons surmonter cette épreuve qui va définir et qualifier notre foi. Apprenons donc à reconnaître ce qui peut être mis en péril dans ce que nous vivons. Apprenons à combattre le bon combat de la foi. Apprenons à nous débarrasser de notre état de pécheur et de couper les liens qui nous retiennent et qui nous trompent. Par exemple, est-il plus important de préserver sa relation avec Dieu ou de préserver sa relation avec cette amie, cette petite amie? Alors même que cette relation nous détourne du regard de Dieu. Et d'ailleurs, c'est même en se cachant de Dieu que cette relation trouve son sens. Par exemple, est-il plus important de préserver notre image contre les regards des autres au lieu de faire le point sur ce péché qui nous limite et qui nous empêche d'évoluer dans notre relation avec Dieu? Est-il plus important de nous préserver de l'image ou alors d'aller chercher de l'aide auprès d'un frère qui pourrait nous aider à préserver notre foi? C'est pourquoi Jacques poursuit, juste après au verset 4, après donc notre texte, il parle de la sagesse et il dit que cette sagesse, c'est celle qui nous ouvre les yeux sur ce que nous vivons. C'est celle qui nous permet de discerner ce sur quoi ou ce contre quoi nous devons nous battre. Comment savoir, Seigneur, est-ce une épreuve pour ma foi, ce que je vis? Jacques nous donne un exemple de prière. Il dit « Demandez à Dieu la sagesse et Dieu donne généreusement et sans faire de reproches. » Une fois que l'on s'est mis au clair sur le fait que nous sommes en train de vivre une épreuve pour notre foi, il faut maintenant définir notre comportement. Et c'est là qu'intervient le rapport au temps. Dans le texte de Jacques, au verset 3, il est dit que l'épreuve de la foi produit l'endurance. Alors définissons l'endurance. L'endurance, c'est l'aptitude à résister. C'est la solidité d'une machine. Vous connaissez certainement au moins une marque de pile qui prône sa capacité à être endurante. L'endurance, c'est la capacité à demeurer dans le cadre d'un test sur une longue durée. C'est donc dans l'endurance que nous trouvons le rapport au temps et donc à la patience. Jacques nous indique que l'épreuve de la foi est liée à un espace temporel durant lequel la foi est trouvée résistante. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle produit quelque chose de bon. Ce serait comme un sas dans lequel nous pourrions passer, un sas dans lequel notre foi serait piquée, piquée et piquée. Dans la mise à l'épreuve de notre foi, notre comportement et notre attitude est déterminante. Solidité ou faille ? Comment gagner en solidité dans l'épreuve de la foi ? Quel est le marqueur qui va nous indiquer que nous avons été endurants ou alors que nous avons été trouvés faillibles ? Jacques met en avant une notion de constance et de maintien. En effet, le chrétien endurant n'aura rien négocié dans sa foi à travers l'épreuve. Prenons l'exemple de Job. Certainement beaucoup le connaissent, cet exemple. Il a connu une épreuve difficile qui a attaqué, piqué ses richesses, sa famille, son statut social, son confort, et ce pendant des temps et des temps. On sent que ça a été long. Durant ces épreuves, Job a maintenu sa foi avec une vraie sincérité. Une sincérité qui force l'exemple. Il a été capable à la fois de combattre contre les médisances de ses amis, des personnes qui se disaient ses amis, qui étaient autour de lui, et en même temps, il a été capable de dire à Dieu qu'il n'en pouvait plus. Une sincérité qui force l'exemple. Mais sa foi, il l'a préservée parce qu'il parlait à Dieu, justement. Son désarroi, il l'a exprimé à Dieu, justement. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce temps d'épreuve pour Job ? Au chapitre 42, verset 5, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, il parle de Dieu, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Cette formulation est à comprendre ainsi. Job connaissait Dieu. D'ailleurs, il était un homme trouvé bon aux yeux de Dieu parmi une multitude. C'est le début de l'histoire de Job qui le dit. Mais vers la fin de ses tribulations, Dieu est entré en dialogue avec Job et Job découvre des facettes de Dieu qu'il n'avait jamais explorées. Alors qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, il ne connaissait pas Dieu pleinement et entièrement. D'où cette parole « Mon oreille avait entendu parler de toi, je pensais te connaître, mais maintenant mon œil t'a vu, maintenant je te vois tel que tu es. » L'endurance de Job a produit une foi plus affermie, une connaissance de Dieu plus complète. C'est là sa joie de sortir de cette épreuve ainsi. C'est là sa joie. Et je vous inviterai dans les jours qui suivent, si vous n'avez pas encore de plan de lecture biblique, de relire Job sous cet angle-là, en regardant sa patience, en regardant son attitude. Maintenant, il faut lever un doute, un léger doute, qui s'immiscerait dans notre tête concernant le rôle de Dieu pendant ce temps d'épreuve. Est-ce que Dieu est là à nous regarder, patiemment, nous regarder, nous débattre ? Alors, oui et non. Non, le Seigneur ne reste pas immobile à nous regarder, car il a horreur du péché. Il a horreur de nous voir souffrir. Il ne voudrait pas que cela mette en péril notre foi. Ce n'est pas sa volonté. Et oui, le Seigneur est là. Il tend la main. C'est lui-même qui va frayer le chemin. C'est lui qui dessine la porte de sortie. Dieu est donc prêt à nous aider pour que nous puissions passer l'épreuve, garder notre foi intacte et sortir. Alors comment se fait-il que l'épreuve puisse durer si longtemps? C'est une question. Alors il faut prendre garde parce que là on va faire appel à une pensée qui est peut-être un peu complexe. Pour répondre, il faut interroger la qualité de notre foi et regarder à Jésus. Quand nous vivons une expérience, cette sensation qui nous permet de dire que c'est une épreuve, cette sensation est due parfois à notre incrédulité, aux liens qui nous font rester dans le péché, plutôt que de nous en débarrasser définitivement. Cette sensation qui nous dit que ce que nous vivons là, c'est l'épreuve de notre foi, c'est une sensation qui s'en va lorsque nous comprenons que l'expérience que nous vivons est bonne pour notre foi. Alors il y a d'abord l'étape 1, durant laquelle l'épreuve nous accable. Elle nous fait perdre nos repères, elle nous fait nous questionner, elle nous fait même questionner Dieu, avoir des doutes. Il y a l'étape numéro 2, où nous demandons à Dieu sa sagesse. Et il donne, sans faire de reproches. C'est l'étape numéro 2 qui nous permet de comprendre, en fait, quels sont les enjeux dans ce que nous vivons. Et enfin, il y a l'étape numéro 3, durant laquelle l'épreuve se transforme en expérience. Elle ne nous accable plus. Au contraire, avec Dieu et sa force, nous dominons l'épreuve. Et cela peut nous demander parfois une gestion minutieuse afin de rencontrer Dieu pendant ce temps. Est-ce que vous comprenez? À la fin de l'étape 3, nous ne sommes plus dans l'épreuve, mais dans une étape de vie, un temps utile. C'est ce que Jacques nous dit. Il n'est pas masochiste. Il n'est pas question de dire que l'épreuve, la souffrance est bonne. Il nous dit que lorsque nous comprenons que ce que nous vivons est une expérience pour qualifier notre foi, c'est là que nous trouvons notre joie. Parfois, on prend du temps. On prend du temps parce que on se débat. On se débat avec nos propres forces. On se débat avec nos armes humaines. Parfois, ça prend du temps parce qu'on n'est même pas conscient que l'on est dans une épreuve de notre foi. Parfois, ça prend du temps parce qu'on ne s'agenouille pas et que l'on ne prie pas. Parfois, ça prend du temps parce qu'on ne prie pas pour la bonne chose. En tout cas, Dieu nous fait une promesse. Il nous dit que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. C'est sa promesse. Regardez l'exemple ultime de Jésus. Jésus a été face à Satan. A-t-il été, ne serait-ce qu'une seconde, tourmenté? Non. Jésus a été trouvé saint, juste, sans péché, parce qu'il avait la connaissance pleine et entière de Dieu. Et face à Satan, il a eu réponse à tout. Matthieu 4, les versets 1 à 11. Fin de l'exemple, épreuve rapide, puis les anges viennent donner à Jésus à manger parce qu'il avait jeûné pendant 40 jours. Alors attention aux pensées trompeuses. Le texte de Jacques nous réaffirme plus loin que ce n'est pas Dieu qui nous met à l'épreuve. Il ne s'agit pas d'une expérimentation de Dieu pour nous voir nous débrouiller, pas du tout. Il s'agit de la vie. Il s'agit de cette vie que nous vivons et qui nous fait passer par des moments difficiles. Attention aux pensées trompeuses. Alors la fin de l'épreuve, Jacques nous dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez vivre. Car vous avez la victoire en Jésus. En effet, l'endurance de notre foi, solidifiée après l'expérience, nous donne une meilleure connaissance de Dieu. Elle est faite pour nous trouver accomplis et parfaits à tous égards et avec joie. Aussi, cela nous rend capables de témoigner. Et c'est aujourd'hui un culte de témoignage, nous entendrons un témoignage tout à l'heure, sur ce que nous avons appris, sur la manière dont nous voyons Dieu nouvellement, avec des nouveaux yeux. Alors oui, il est heureux, le chrétien, qui connaît Dieu davantage et qui solidifie sa foi à travers l'épreuve. Pour autant, cette expérience n'aurait pas de sens si nous n'avions pas pour but l'espérance du retour de Jésus. À quoi bon si Jésus ne revient pas? Car c'est à travers l'appréciation de Jésus lui-même que nous allons nous trouver joyeux. C'est lui qui viendra nous chercher par rapport à la joie et à la qualité de foi que nous aurons pour nous amener auprès du Père. Sans cette espérance du retour de Jésus, l'endurance est vaine. Et c'est là que nous arrivons à la patience de Dieu, à ce temps que Dieu nous donne pour vivre ces expériences, pour qualifier notre foi, pour être trouvé joyeux. Et c'est Pierre, donc, qui nous instruit. Pierre exhorte des chrétiens dispersés qui ont pour but de croître dans la connaissance de la parole de Dieu, mais qui se perdent dans des considérations humaines. Pierre commence le chapitre 3 en rappelant que les prophètes ont parlé autrefois pour prévenir les chrétiens de ce qui allait arriver. Ce qui arrive, c'est que l'espérance des chrétiens est mise à mal. On dit par-ci ou par-là qu'ils attendent une chose qui n'arrivera jamais. Le retour de Jésus n'arriverait donc jamais. Cette moquerie, ce pic, est des plus éprouvants, car en effet, quelle raison de tenir bon et de croire, d'être calomnié, d'être critiqué, d'être frappé, d'être tué, si Jésus ne revient pas? C'est le fondement de notre foi qui est remis en cause dans ces allégations. Il y a en effet déjà plus de 1500 ans que Jésus est venu et est monté au ciel auprès de Dieu. Pourquoi tant de temps entre son ascension et son retour? Il est temps donc de comprendre comment Dieu met en œuvre sa patience, en quoi est-ce une qualité pour Dieu. Alors, je ferai une petite parenthèse sur le temps. Alors, nous ne le disons pas souvent, peut-être moi je ne l'ai pas très, beaucoup entendu, mais le temps est bien inclus dans le processus de la création. Dieu a créé des cycles du matin et du soir. Cela induit que le temps d'une journée a été intelligemment fixé par Dieu. Notre Seigneur, Dieu, est maître du temps. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parle aux générations présentes et futures, lorsqu'il promet pour la descendance d'Abraham, Dieu fixe le temps de ses projets pour l'homme. Dans l'Apocalypse, lorsqu'il donne les révélations à Jean, Dieu fixe le temps en disant un temps, deux temps, trois temps, quatre temps. Il fixe le temps de manière précise même. Le Seigneur Dieu est donc le créateur des temps. Le temps est dans sa main. Il en est le souverain. Et dans sa lettre, Pierre explique le rapport de Dieu au temps. Alors, ce n'est pas dans le texte que nous avons lu, mais c'est dans le chapitre 3 au verset 8, donc un peu plus haut que ce que nous avons lu. Pierre dit, « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Il y aurait donc plusieurs aspects à tirer de ce verset-là, pour prendre un enseignement complet, mais on va prendre un aspect et regarder un peu. D'abord, posons-nous la question du rapport de l'homme face à cette échelle de temps. Un jour, ça va? On est à l'aise? Une journée? On peut gérer. L'homme sait planifier une journée. Il sait en dessiner les contours. Il peut fixer des objectifs. Il peut décrire un cheminement par étapes. Ou tout simplement se laisser porter. Je sais que pour certains, planifier, c'est une source d'angoisse. L'un pourra dire, aujourd'hui, c'est jour de jeûne. Ma journée sera une journée de jeûne. Il planifie, il est à l'aise. L'autre pourra dire, aujourd'hui, c'est ma journée de repos. Il fixe un objectif. Un autre dira, aujourd'hui, c'est journée révision. Ou encore, aujourd'hui, c'est ma journée avec mes petits-enfants. Bon, autant dire, on peut gérer une journée, c'est à notre portée. Et à la fin de la journée, que faisons-nous? On débriefe, on fait une synthèse. L'un dira, ok, c'est fait, j'ai fait ma journée de jeûne, merci Seigneur. L'autre fera la synthèse que finalement sa journée de repos s'est transformée en une journée bien remplie. Oh mince, on recommence le jour prochain? D'ailleurs, si la journée n'a pas rempli ses objectifs, on reporte au lendemain. L'homme est en pleine maîtrise, ou à peu près, à l'échelle d'une journée. Et au mois, alors? Est-ce qu'un mois, on y arrive aussi? On peut planifier un mois, à peu près? Pour certains, oui, pour d'autres, moins. Une année. Est-ce qu'on arrive à planifier une année? Alors, pour ma part, je suis la championne de l'organisation d'une année. J'ai pris l'habitude de regarder mon calendrier sur l'échelle d'une année. C'est comme ça, et j'arrive à dire à chaque instant de l'année ce qui doit se produire, ou en tout cas j'arrive à dire, à fixer des objectifs. Je ne suis pas devin, c'est juste j'arrive à planifier les objectifs. Bon, je suis assez à l'aise, ça ne veut pas dire que j'y arrive. Je sais que pour d'autres, planifier une année, mais c'est juste une angoisse pas possible. J'en ai un à la maison qui est comme ça, et qui ne supporte pas que l'on puisse planifier une année. Bon. Maintenant, planification challenge. Celui qui arrive à planifier les 10 prochaines décennies, est-il dans la salle? Planifier une décennie. Admettons que c'est possible. Comment peut-on s'assurer que ce que nous avons planifié puisse se réaliser? Car tout n'est pas de savoir planifier, mais il faut aussi pouvoir débriefer de ces 10 années, de pouvoir faire la synthèse et ainsi de dire « Bien, c'est fait, j'ai réussi ». Je dirais même que même à l'échelle d'une entreprise, on planifie en général sur 5 ans. C'est difficile de faire un peu plus. Donc à certains niveaux, on se sent, en tant qu'homme, un peu limité dans notre capacité à planifier et à nous assurer que le plan se réalisera. Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Bon, 1000 ans maintenant, comment on fait? Quel rapport l'homme peut-il avoir face à 1000 ans? Quel homme peut dire qu'il est capable de piloter avec justesse des événements et même ses propres réalisations à 1000 ans devant lui? Déjà, les 1000 ans devant lui n'existent pas. Bon, l'analyse va s'arrêter là, je vous rassure, parce que 365 000 journées, ça fait trop. Donc à notre niveau, 1000 ans sont immaîtrisables. En synthèse, l'homme est beaucoup plus capable de planifier une journée que 365 000. Mais encore, même une journée peut avoir différentes saveurs. Alors il y a le jour où Myriam et Andy se sont fiancés. Le jour où Loïsmé a reçu son baptême. Le jour où Miché va commencer son travail. Le jour où Jeanne Sarai est née. Et bien d'autres journées si particulières. Mais il y a aussi d'autres types de journées. Les journées que l'on n'aurait jamais voulu planifier. Le jour où Evelyne a su qu'elle avait un cancer. Le jour où cet accident est arrivé. Il y a aussi ces journées-là que nous, en tant qu'hommes, nous ne saurions jamais planifier. Mais au contraire de nous, Dieu a une maîtrise du temps à une échelle large qui nous dépasse. Dieu considère la journée comme précieuse. Une journée, pour lui, peut valoir 1000 ans. Car en une journée, Dieu peut réaliser une œuvre déterminante pour l'éternité. En une journée, le Seigneur nous a donné Jésus-Christ. En une autre journée, le Seigneur a ressuscité Jésus-Christ. En une autre journée, si précieuse et déterminante pour 1000 ans, le Seigneur a fait monter Jésus au ciel pour que le péché, la mort, n'ait plus de pouvoir. Dieu peut également planifier son œuvre sur 1000 ans, pas de problème. Et plus encore, car lui, il est éternel. Il est au-dessus de toute chose. Et ça nous donne une garantie fondamentale dans les promesses qu'il nous donne. Dieu est celui qui tient en sa main les temps fixés pour chaque chose. Faisons-lui confiance. Car dans chacun de ces temps que nous vivons, il est le maître souverain. Même quand parfois une journée paraît si lourde de conséquences, elle pèse le poids de 1000 ans. Même quand parfois nous pouvons être surpris à l'issue d'une journée que nous n'attendions pas, lui, Dieu, sait tout et connaît tout. Que fait Dieu pendant ces temps ? Pierre nous l'indique, versets 14 et 15. Il nous exhorte à considérer la maîtrise du temps de Dieu comme la mise en œuvre de sa patience. Dieu met en œuvre une qualité à laquelle il nous appelle. Il est exemplaire. Il est exemplaire en faisant cela. Et la patience de Dieu a quel but ? Elle est là pour mettre en œuvre notre salut. Si Jésus était revenu avant février 2004, je n'aurais pas été appelé enfant de Dieu. Dieu doit faire preuve de patience envers nous. Alors qu'il nous a donné sa parole, il nous a tout dit, il nous a fait connaître la vérité. Mais certains usent encore aujourd'hui de leur libre arbitre. Il y en a qui ne croient pas encore aujourd'hui. Donc Dieu fait preuve de patience. L'amour de Dieu supplante tout. Car le plan de Dieu depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève est de recréer avec l'homme une relation parfaite et sans séparation. Or aujourd'hui, et depuis que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance, nous sommes séparés de la présence de Dieu. Le seul moyen par lequel nous pouvons rétablir une relation avec Dieu, c'est par Jésus. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Au temps fixé d'avance, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés et porter pour nous à la croix tout le poids de nos transgressions, toutes nos désobéissances, toutes nos fautes. Ce poids lourd, lourd, comme le poids de toute l'humanité, a été porté par Jésus, lui qui est saint et sans péché. Au temps fixé d'avance, Dieu reprendra sa place au milieu de nous, au milieu de son peuple, en faisant revenir notre Seigneur Jésus. Dieu détruira tout péché. Il gardera auprès de lui ceux qui auront été trouvés sans tache, sans défaut, dans la paix, nous dit Jacques. Nous devons donc considérer la patience de Dieu comme une grâce offerte. un temps durant lequel il est encore possible de s'approcher de lui, de lui parler, de lui demander pardon, de changer de vie en Jésus-Christ. Considérons la patience de Dieu comme une grâce offerte, comme un temps durant lequel notre foi doit se développer. Elle doit être éprouvée. Non pas à cause de Dieu, mais à cause de la dureté de ce monde, notre foi serait éprouvée. Que les fruits de l'Esprit se mettent en œuvre en nous. Que nous puissions être au bénéfice de la grâce de Dieu qui œuvre avec patience pour la qualité de notre foi et pour notre salut éternel. Amen.